Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, le Conseil des ministres a adopté hier vendredi un plan d'action interministériel destiné à stabiliser le secteur du cacao. Cela face à la baisse des prix du cacao sur le marché international et en vue de limiter les effets de cette chute sur l'économie nationale. En Ituri, une maladie apparentée à la peste porcine décime plusieurs ports dans la chefferie de Nio Kamoulé, dans le territoire d'Arou. Selon la société civile locale, plus d'une dizaine de bêtes sont déjà mortes et plusieurs autres touchées par cette maladie. L'invité de ce journal est John Anipenda, l'un des membres de la caravane panafricaine pour la paix en RDC. En séjour à Kananga, il parle du message de paix que les jeunes véhiculent à travers cette caravane. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face à la baisse des prix du cacao sur le marché international, le gouvernement congolais veut protéger la filière et limiter les effets de cette chute sur l'économie nationale. Réunis hier vendredi à la Cité de l'Union africaine autour du président Félix Tshisekedi, le Conseil des ministres a adopté un plan d'action interministériel destiné à stabiliser les secteurs du cacao. Porté par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, cette stratégie prévoit notamment des mesures fiscales, la relance de la production agricole, la transformation locale du cacao, ainsi que la sécurisation des circuits commerciaux. Le gouvernement annonce également la tenue imminente à Kinshasa des consultations préparatoires au troisième examen de la politique commerciale de la République démocratique du Congo avec l'Organisation mondiale du commerce. On écoute Augustin Kibasa, ministre de l'économie numérique, qui a lu les comptes rendus du Conseil des ministres. Il est dans cet extrait proposé par Grâce Amzati Masanzi.
Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du troisième examen des politiques commerciales de la République démocratique du Congo dans le cadre du mécanisme institué par l'accord de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. En perspective de cette activité prévue à Genève le 28 et 30 octobre 2026, il a précisé qu'une mission du secrétariat de l'OMC est attendue à Kinshasa du 11 au 15 mai 2026, constituant la deuxième visite dans le cadre des préparatifs. Ce troisième examen de notre politique commerciale couvre un large ventail de secteurs économiques, notamment le commerce extérieur, les douanes, l'agriculture, la pêche, l'environnement, la propriété intellectuelle, les mines, la santé, les services ainsi que les politiques d'investissement et de facilitation du commerce. Le ministre du Commerce extérieur a sollicité l'implication active de toutes les parties prenantes concernées par ce processus en vue d'assurer une participation efficace et une représentation de qualité de la République démocratique du Congo à ce troisième examen.
À Kinshasa, dans plusieurs supermarchés et marchés de fortune, des produits alimentaires et ménagers proches de leur date d'expiration sont proposés à prix réduit sous couvert de promotion. Une pratique qui attire de nombreux clients en quête de bonnes affaires dans un contexte économique difficile. Mais derrière ces rabais, parfois très alléchants, des inquiétudes demeurent. Si certains consommateurs y voient une opportunité d'économiser, d'autres s'inquiètent des risques que ce produit pourrait représenter pour la santé. Le point avec Christian Makasinga.
Au rayon de plusieurs supermarchés de la capitale, des affiches promotionnelles et des étiquettes rouges attirent l'attention des clients. Biscuits, yaourts, boissons, lait, conserves ou encore produits surgelés, de nombreux articles proches de leur date d'expiration sont proposés à des prix fortement réduits. Pour beaucoup de consommateurs, ces promotions représentent une occasion à ne pas manquer.
Quelque chose qui coûte 40 000 francs, quand tu rentres dans un supermarché, tu trouves que c'est en promotion à 17 000 francs. Automatiquement, ça t'attire.
Cependant, cette pratique ne rassure pas tout le monde.
Parfois, la qualité ne dépend pas du prix. Tu ne peux pas acheter un truc parce que tu as vu des prix abaissés, parce que tu ne connais pas les conséquences.
Selon les spécialistes, les effets liés à la consommation de produits proches, voire dépassant leur date limite, dépendent notamment de la nature du produit, de ses conditions de conservation et de l'état de santé du consommateur. C'est ce qu'explique Stani Kalambay, nutritionniste diététicien.
Ça peut créer à la longue d'autres conséquences, ok? Team que les dosages est bien calculé avec des appareils, on peut le prendre à la veille de la date de péremption, ça ne posera pas de problème, ça dépend mais d'autres organismes, il y a de l'intolérance face à d'autres produits.
Face à cette situation qui divise les consommateurs, plusieurs voix s'élèvent pour appeler les autorités compétentes à renforcer le contrôle afin de garantir la qualité de produits mis sur le marché et de mieux protéger la santé publique.
En Ituri, je le disais dans les titres, une maladie apparentée à la peste porcine décime plusieurs ports dans la chefferie de Niokamoulé, située dans le territoire d'Arou, à plus de 300 km au nord de Bounia. Selon la société civile locale, plus d'une dizaine de bêtes ont déjà succombé et plusieurs autres sont encore atteintes. Cette situation serait liée, d'après les mêmes sources, à l'importation incontrôlée des porcs malades en provenance des pays voisins. Les détails avec Martial Kizabiamungu.
L'élevage constitue un pilier important de l'économie et de l'alimentation dans les territoires d'Arou. Mais ces derniers jours, le secteur est directement frappé par une maladie apparentée à la peste porcine. Selon la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme, plusieurs porcs présentent des symptômes inquiétants, notamment les lésions cutanées, une perte d'appétit et une forte fièvre. La société civile pointe du doigt l'importation incontrôlée de bêtes en provenance des pays voisins sans contrôle préalable des services vétérinaires et des quarantaines. Une pratique qui, selon elle, expose davantage les cheptels locaux à des maladies contagieuses. Face à cette situation, cette structure citoyenne appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement, notamment par l'organisation d'une campagne de vaccination pour limiter la propagation de la maladie. De son côté, les responsables provinciaux du service de l'élevage à l'Ituri, tout en reconnaissant la gravité de la situation, promet de fournir davantage des précisions dans les prochaines heures. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Lomami, la route nationale reliant Lubumbashi au territoire de Malemba-Nkoulou est actuellement coupée au niveau du village Moulongo en raison de la montée des eaux du fleuve Congo. Conséquence, les camions en provenance de Lubumbashi sont contraints de décharger leurs marchandises sur place avant qu'elles ne soient acheminées vers Malemba-Centre à bord des baleinières. Selon la société civile de Malemba-Nkoulou, cette situation est à la base de la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché local. Le point avec Paul Mounanga.
Au village Moulongo se trouve le port secondaire d'Oumana. C'est à cet endroit que les marchandises venues par camion sont transbordées dans des baleinières de petite capacité à destination de Malemba-Nkoulou. Pour les commerçants, ce système entraîne un double coût. Ils doivent payer à la fois les transports routiers et les transports fluviaux. Une charge supplémentaire qui se répercute directement sur les prix des produits vendus sur le marché local. À cela s'ajoute le retard dans l'acheminement des marchandises, aggravant davantage la situation. Claude Kiasangolo, coordonnateur de la société civile Force Vive de Malemba-Nkoulou, explique les conséquences de cette coupure sur la population locale.
Les opérateurs économiques déplorent un grand retard dans la réception de leurs marchandises, tandis que les transporteurs se lamentent des pertes de certaines marchandises au port de Oumana et se disent choqués par les retards dans leurs courses, car la place réservée au parking à Oumana ne supporte qu'un seul véhicule. C'est pourquoi la Société civile Force Vive de Malemba-Nkoulou demande à son Excellence Monsieur le Ministre national des Infrastructures à la modernisation du tronçon Moulongo-Kaboué tout en y affectant un engin de grande capacité pour la traversée des véhicules.
L'administrateur du territoire de Malemba-Nkoulou confirme l'information. Cependant, il souligne que la situation est en train de s'améliorer car l'eau se retire petit à petit. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Parlons politique à présent. Le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental a été réaménagé hier samedi à la suite de la publication d'un arrêté lu sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, station de Mbujimayi. Deux nouveaux ministres sur 10 font leur entrée dans l'exécutif provincial, tandis qu'un seul membre du gouvernement en sort. Ce réaménagement intervient quelques mois après la démission de la ministre provinciale du genre, famille et enfants, mines, hydrocarbures, entrepreneuriat. Des explications avec Esther Dalafina.
Elvis Kadiaye Ilunga, jusque-là directeur adjoint chargé des recettes non fiscales à la Direction générale de recettes du Kasaï oriental, rejoint pour la première fois l'équipe gouvernementale. Il est nommé ministre provincial des Finances. Autre entrée notable, Nana Bambo Mukendi, désormais ministre provincial du genre, famille et enfants, ainsi que de mines. Elle succède à Berthe Ilunga, démissionnaire depuis février dernier pour convenance personnelle. Le seul ministre évincé lors du récent réaménagement du gouvernement provincial et Nico Mwamba-Kamba qui gérait jusque-là les portefeuilles de l'éducation, de la fonction publique, de la jeunesse, de la culture et des arts. Ces attributions ont été redistribuées entre plusieurs membres de l'exécutif. La jeunesse revient désormais à Gaston Katambayi, actuel ministre provincial des Affaires foncières, de l'urbanisme, du tourisme, des sports et loisirs. Quant au secteur de l'éducation, il est confié à Élisée Kabuya-Mendé. Ce réaménagement ne satisfait pas les organisations féministes de la province qui espérait un meilleur équilibre homme-femme dans les postes nominatifs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Même chose dans la province du Kasaï central, où également le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a procédé hier samedi au remaniement de son gouvernement provincial. Cette nouvelle équipe est composée de 10 membres, dont une femme. Trois nouvelles figures font leur entrée dans cet exécutif provincial. Les détails avec André Katendengala Mouloumé.
Parmi les nouveaux membres du gouvernement provincial figure Tchela Kalala Fiston, ministre des Transports, Joukayou Anfanganaï Kalamba Honoré, prend quant à lui la tête du ministère de la Jeunesse, Sport, Entrepreneuriat et Tourisme. Kamaï Kasunga, nommé ministre de l'Intérieur, Affaires Coutumières, Justice et Droits Humains, ainsi que des relations avec l'Assemblée provinciale. Du côté des ministres reconduits, Moutela Mukendi Piro conserve le portefeuille du plan budget, fonction publique, communication et médias. Il est aussi porte-parole du gouvernement provincial. Kenkeni Mawanga Crispin garde le ministère de Finances, Économie, Commerce, Petites et Moyennes Entreprises et Industrie, le ministère de l'Agriculture et entre les mains de Kabouaï Kabongo Toto. Honoré Mutupai Baloué s'occupe de l'éducation, de la santé publique, de l'hygiène et de la prévoyance sociale. Ntambwe Ntambwe Antoine conserve le ministère de Mines tandis que Bampende Banakai Marie est reconduite aux affaires sociales et actions humanitaires. Enfin, le portefeuille des infrastructures revient à Chikai Chikai Jacques. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, après une plénière très agitée vendredi dernier sur l'interpellation ou non du gouverneur, le rapporteur de l'Assemblée provinciale apporte quelques précisions sur ce qui s'est réellement passé. Il affirme que 13 députés contre 9 ont voté contre l'interpellation du gouverneur. La plénière étant souveraine, il n'appartient pas au président de l'organe délibérant de faire autrement. On écoute à ce sujet le député Papi Omeonga Chopo, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Quand on a abordé les points relatifs à l'examen et l'adoption de l'objet de l'interpellation, on a laissé passer l'initiateur qui a présenté et après nous sommes passés au vote. Et nous avons malheureusement constaté que le président s'est imposé contre la démocratie. Il a décidé d'autorité pour que l'objet de l'interpellation puisse être adopté alors que ça n'était pas adopté. Il y a eu 13 voix contre l'interpellation et il y a eu 9 voix pour. Mais je ne vois pas comment lui, un interpellateur, un président puisse décider que 9 puisse primer sur 13. Et il a décidé, il a levé la séance à catastrophe et c'est ça l'agitation que vous observez dans l'Assemblée. Mais le gouverneur va se présenter. Il faut qu'il y ait un PV qui sera adopté, signé conjointement entre le président et le rapporteur de l'Assemblée. Moi, j'ai le PV déjà là, où je vois qu'il y a 13 voix contre 9. Et on va l'interpeller comme. À ce moment-là, c'est lui qui va décider comme il l'a fait aujourd'hui. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, c'est la démocratie qui prime. Quand on a 13, on voit 9, c'est l'option levée par les 13 qui passe et qui prime. Le président n'a pas le pouvoir sur la plénière, mais c'est la plénière qui a le pouvoir sur le président.
Pour rappel, l'initiateur de cette interpellation souhaite que le chef de l'exécutif provincial puisse s'expliquer sur la gestion des fonds secrets de recherche et de la taxe conventionnelle. Par ailleurs, ce 10 mai, la République démocratique du Congo célèbre la journée des mères, une occasion de rendre hommage aux mamans et de reconnaître leur rôle essentiel au sein de la famille et de la société. À Matadi, dans la province du Congo central, cette journée met en lumière la force et la résilience des nombreuses femmes et jeunes filles qui affrontent les difficultés du quotidien avec courage, tout en gardant l'espoir d'un avenir meilleur, malgré des conditions de vie souvent précaires. Notre reporter sur place, Elise Kavira, est allée à la rencontre de quelques-unes de ces femmes au parcours inspirant.
En cette journée dédiée aux mères, plusieurs femmes de Matadi témoignent des réalités qu'elles affrontent au quotidien. Elles font tout pour s'autonomiser et subvenir aux besoins des leurs. C'est ainsi que plusieurs d'entre elles s'adonnent à toutes sortes d'activités pour gagner leur pain quotidien. À l'exemple de Hélène Mavinga, communément appelée Maman Munganga, chaque jour, dès 8h du matin, elle se tient derrière sa table garnie des produits indigènes qu'elle commercialise depuis plus de 12 ans, d'après son témoignage.
Je vends des produits indigènes, ça m'aide beaucoup avec ma famille. Les motards et les conducteurs des grands cars utilisent beaucoup ces produits. Mais notre plus grande difficulté est que les routes ne sont pas bonnes, surtout que nous sommes parfois obligés d'aller au fond des villages pour trouver ces médicaments.
Plus loin vers rond-point 24 novembre, nous retrouvons Eunice Lubienga, jeune coiffeuse bien connue dans le coin. Chaque matin, elle aménage son lieu de travail. Pour protéger ses clientes contre les soleils, elle a un abri de fortune.
Bon, avant, je ne faisais rien. Dès que j'ai eu mon fils, j'ai dû apprendre les métiers d'esthétique. Bon, grâce à Dieu, j'ai des clientes et je peux dire qu'aujourd'hui, avec la coiffure, j'arrive à subvenir aux besoins de mon fils.
Les femmes résilientes sont nombreuses et elles se recrutent dans tous les domaines de la vie. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Emmanuel Macron est au Kenya. Le président français poursuit sa tournée en prélude au sommet Africa Forward. Après une escale en Égypte hier samedi, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce dimanche après-midi à Nairobi, la capitale du Kenya. Il s'est rendu à sa sortie de l'avion directement à la State House, le palais présidentiel kenyan.
L'invité.
L'invité de ce journal est John Adipenda, l'un des membres de la caravane panafricaine pour la paix en République démocratique du Congo. En séjour à Kananga, il parle du message de paix que les jeunes véhiculent à travers cette caravane panafricaine. John Anipenda s'entretient avec André Katendengala Mouloumé.
Monsieur John Anipenda, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes en séjour à Kananga. Qu'est-ce qui motive votre présence ici?
Oui, nous sommes ici au nombre de oui, parce que nous avons pensé qu'il est temps que nous puissions quitter notre silence par rapport à ce que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Vous le savez très bien que c'est plus de 30 ans que notre pays est en train de traverser des moments difficiles, des moments de guerre. Et en tant que citoyens, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas rester indifférent face à ces drames ou à ces crimes que nous sommes en train de subir. Et c'est comme ça que nous avons initié une action ou cette caravane panafricaine pour continuer à hausser la voix et dire aux Congolais qu'il est temps de quitter notre silence. On doit utiliser la parole pour dénoncer. Nous avons commencé il y a déjà aujourd'hui 45 jours, depuis le 24 mars, que nous avons commencé cette marche qui a débuté depuis le Congo central, c'est juste à l'embouchure du fleuve Congo. Et nous sommes en train de passer ville par ville. Nous avons commencé cette marche par Matadi, Boma, Sekebanza. Et puis après, nous avons pris Banzangungu, Kinshasa, Kwango. Nous avons aussi passé par Bandunduville, et Maindombe. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Kananga. Notre caravane doit terminer jusqu'à Kalemi.
Dites-nous concrètement ce que vous poursuivez en organisant cette caravane.
Notre objectif est clair. Nous voulons dire non, non au silence. Plus de 30 ans que nos mamans sont en train d'être tuées. Aujourd'hui, on compte plus de millions de Congolais qui sont dans des camps de déplacés. Pour aussi dire à toutes ces personnes qui utilisent toujours de la violence pour tuer, pour revendiquer. On ne peut pas à tout moment venir tuer d'autres citoyens en disant que nous voulons vous protéger. Tu ne peux pas protéger quelqu'un que tu as déjà tué. Et nous venons dire à ces Congolais qui continuent à être complices à nos ennemis ou à utiliser la violence qu'il y a beaucoup de moyens que nous pouvons utiliser pour changer les choses. Des actions citoyennes que nous pouvons mettre en place pour avoir la paix chez nous au Congo et continuer à hausser la voix pour la paix. Nous continuons à dire aux Congolais qu'il est temps que nous puissions être unis. Par exemple, nous avons entendu même dans des chansons, que ce soit dans des discours de politiciens ou de hommes même de la société civile, où nous disons toujours que la guerre à l'Est, où ce genre de concept risquerait de nous diviser. Il est temps de bannir ce genre de communication, ce genre de concept, et dire directement que lorsqu'on tue quelqu'un à Maindombe, lorsqu'on tue quelqu'un au Kasai, on tue quelqu'un à Goma, c'est un Congolais qui est tué et pas un Congolais de l'Est ou qu'un Congolais de Maindombe.
Comment allez-vous procéder?
Nous avons des moments d'échange avec des citoyens. Dans certaines villes, nous avons organisé des cafés citoyens, donc des moments de réflexion, d'échange. Mais il y a aussi des villes où nous avons utilisé des stratégies de ce que nous appelons les témoins de ma patrie. Ça veut dire on rencontre des citoyens, on échange directement avec eux. Mais aussi, nous continuons à utiliser aussi le système de donner la parole aux citoyens parce que nous tous, nous sommes de victimes de ce qui se passe chez nous au Congo. Et donc, nous n'avons pas seulement quelque chose à dire, mais nous avons aussi les oreilles pour écouter d'autres citoyens qui ont un message à passer. Et nous espérons que ensemble nous allons construire ce que nous appelons un même narratif, une même histoire. Nous voulons que cette action puisse être une action populaire. C'est seulement 64 jours de notre marche. Mais après ces 64 jours, nous voulons que ça puisse continuer.
Monsieur John Anipenda, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
C'était notre invité John Anipenda, l'un des membres de la caravane panafricaine pour la paix en RDC. Il s'entretenait à Kananga avec André Katendengala Mouloumé. Fin de ce journal qui a été préparé par Jude Mister Bilanda. André Mongou a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Kapi. Bonsoir chez vous.